Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus a raconté des paraboles pour nous aider à mieux comprendre notre monde avec son lot de mystères et d'interrogations. Dans la nouvelle série que nous commençons aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le sens de l'une d'elles, celle nommée la parabole de la mauvaise herbe.
Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Notre lectrice Sandra va la lire.
Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. » Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier.
Alain est de retour parmi nous pour expliquer le sens de cette parabole. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alain, nous avons récemment réfléchi sur le sens d'une autre parabole dans laquelle nous rencontrons aussi un semeur. Oh, dans l'évangile de Matthieu, elle précède celle que nous venons d'écouter.
Oui, il est vrai qu'il existe certaines similarités entre ces deux paraboles, mais les thèmes abordés sont différents. Dans la première parabole, celle du semeur, Jésus répond à la question « Comment croître spirituellement ?» Et dans la deuxième, celle de la mauvaise herbe, il nous invite à réfléchir sur la question « Pourquoi le mal continue-t-il à exister dans un monde où le règne de Dieu est censé s'installer et s'établir ?
Et de même que dans la parabole du semeur, Jésus éclaire ses disciples parce qu'ils le lui demandent.
C'est exact, Yann. Si je ne me trompe pas, il s'agit des deux seules paraboles pour lesquelles les auteurs des évangiles nous font part de l'explication de Jésus. Il serait bon d'ailleurs d'écouter celle donnée à propos de la mauvaise herbe tout de suite. Il s'agit de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 37 à 43.
Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Quand on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. »
Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur le sens général de cette parabole et sur les leçons principales que nous pouvons en tirer. Lors des prochaines émissions, j'aborderai plus en profondeur certains détails qui y apparaissent.
En bref, donc, que devons-nous apprendre de cette parabole ?
Jésus est venu annoncer un message bouleversant. Il a proclamé aux hommes et aux femmes que le règne de Dieu est proche. Il leur a dévoilé qu'en fait, il est le roi, sauveur, promis par Dieu, à travers les prophètes, étant attendu par le peuple d'Israël. Alors devant cette nouvelle merveilleuse, le peuple et les disciples ont probablement pensé que tout allait changer rapidement. Ils désiraient et espéraient que Jésus allait tout faire basculer pour apporter la paix, pour amener la justice, établir la sécurité et la prospérité dans le délai le plus bref.
Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et encore de nos jours, presque 2000 ans plus tard, le mal inonde notre monde et engendre beaucoup d'épreuves et de souffrances.
Il est normal et légitime de s'interroger sur ce fait. Jésus est roi au-dessus de tout, et pourtant sur terre, nous voyons si peu d'évidence de son règne. Nous annonçons que Jésus est vainqueur, et pourtant partout dans le monde, le mal semble triompher. Or, cette parabole nous apporte quelques éléments de réponse à ces interrogations, et de plus, une formidable espérance.
Quels éléments de réponse voudriez-vous apporter alors à nos interrogations ?
D'abord, puisque Jésus l'a lui-même annoncé, nous ne devons pas nous étonner de cet état de choses. Cette parabole nous enseigne que pendant l'âge présent, le mal abondera. Il menacera même la survie de tout bon fruit porté par le chrétien. Autrement dit, tout être humain qui désire vivre pour Dieu et qui accepte de se soumettre à Jésus-Christ doit cohabiter avec ceux qui refusent le Seigneur et qui demeurent sous l'emprise du diable. Probablement, les premiers disciples pensaient qu'en suivant Jésus, ils connaîtraient une vie facile, sans ennui. Or, l'enseignement de Jésus contredit de telles pensées. Il nous parle des luttes qui seront les nôtres si nous désirons persévérer et plaire à Dieu. Même de nos jours, certains pensent que la foi chrétienne leur permettra d'expérimenter une vie exempte d'épreuves. Une telle foi sera rapidement déçue et s'avère même être mal fondée. La parabole lue enseigne que Jésus, le roi, agit. Son royaume s'étend, progresse et triomphera le jour où il reviendra sur terre. Toutefois, aujourd'hui, le mal demeure. Le diable est à l'œuvre et il s'oppose avec acharnement au progrès de tout chrétien. Pour ces raisons, celui qui aime Dieu doit s'attendre à ce que son cheminement spirituel et sa vie ne soient pas faciles. Or, Jésus veut que nous soyons préparés aux difficultés de la vie et que nous persévérions envers et contre tout.
Mais la parabole enseigne aussi que les difficultés que nous endurons ne continueront pas éternellement.
C'est exact, Yann, et quelle merveilleuse espérance pour tous ceux et celles qui marchent par la foi dans ce monde mauvais et malheureux. Celui qui sème des graines sait que quelques mois plus tard, il profitera d'une récolte. Ces mois d'attente passent sans doute lentement et sont marqués par de durs labeurs, des moments d'inquiétude, des combats contre les éléments naturels qui pourraient nuire à une bonne moisson. Mais enfin, le jour arrive où le semeur ramasse ce que la terre a produit, et il se réjouit de tout le travail accompli, car il n'a pas été en vain. Tout comme l'arrivée du temps de la moisson est sûre et certaine, la parabole nous enseigne comme une certitude que le jour viendra où Jésus séparera une fois pour toutes ceux qui appartiennent à son royaume de ceux qui demeurent sous l'influence du diable. Le croyant, membre du royaume de Dieu, entrera dans la vie éternelle où le mal sera absent, où les personnes méchantes ne se trouveront plus et où toute souffrance aura disparu. Le chrétien connaîtra enfin la paix, le bonheur, la sécurité et la prospérité parfaite. Là, il demeurera avec le Dieu saint, il le verra face à face, le connaîtra. Et nous pouvons tirer force et courage de cette merveilleuse espérance. Elle nous permettra d'endurer les épreuves et d'attendre patiemment le retour de notre roi, Jésus.
Merci Alain pour vos enseignements clairs et instructifs. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Notre invité Patrick va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera, dans un premier temps, la façon dont Jésus demeure pour nous, un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, il nous parlera de la bonté. Et je lui cède tout de suite la parole.
Merci Yann pour cette introduction et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons défini la bonté en ces termes. La bonté est serviable, la bonté pense aux autres, elle cherche à répondre à leurs besoins de façon désintéressée. Et nous avons compris la bonté de Jésus venu dans le monde pour servir les hommes et les femmes. Alors que, pourtant, un être de son rang aurait pu exiger à être servi. Jésus d'ailleurs a déclaré, rappelons-le, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'apôtre Paul, quant à lui, a écrit à l'église de Colosse, « Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté. » Certaines personnes mettent beaucoup de temps le matin pour choisir quel vêtement porter, car il est important de choisir celui qui correspond à la bonne occasion. Celui qui travaille dans un bureau, par exemple, ne s'habillera pas de la même façon qu'un mécanicien. Il ne convient pas non plus à celui qui doit assister à un mariage de porter les habits qu'il utilise pour aller labourer son champ. De même, au moment de nous habiller le matin, il serait bon que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons nous comporter envers les diverses personnes que nous allons rencontrer tout au long de notre journée. D'ailleurs, en réponse à cette exhortation, Paul nous exhorte à nous revêtir d'ardente bonté. Or, la bonté est primordiale en toute occasion, lors de nos diverses rencontres. Il est vrai que la bonté se manifestera différemment selon les circonstances rencontrées, mais nous devons aspirer à faire preuve de bonté en toute situation, au travail comme à la maison, à l'église comme sur la place du marché. Malheureusement, nous sommes de nature plutôt égoïste. Nous pensons plus facilement à nos propres besoins plutôt qu'à satisfaire ceux des autres. Nous souhaitons être servis et nous oublions de servir. De plus, parfois, quand nous faisons preuve de bonté envers quelqu'un, nous le faisons afin de satisfaire un intérêt personnel, dans l'espoir d'obtenir une faveur ou un service en retour. Mais toutes les fois que nous laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, il nous aide à surmonter toutes ces attitudes et motivations égoïstes. L'Esprit de Dieu produit en nous ce fruit de la véritable bonté, une bonté qui reflète celle de Jésus-Christ, une bonté qui pense aux autres, une bonté qui rend service, une bonté qui accomplit le bien.
Merci Patrick pour ces remarques soulignant l'importance de la bonté. Que l'Esprit de Dieu nous aide tous à mettre ces exhortations en pratique.
La prochaine fois, dans cette même série, Patrick nous parlera de la fidélité. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.